Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner. Dupont, le matin, avec Paul-Raphaël Charon.
Allez-vous poser les vraies questions?
Non, FM 93.
Il semble que ça réveille à matin, les tunes.
Mais c'est deux tunes mélangées ou quoi, ça?
Ben, je sais pas,
c'est
moi.
Un remix?
C'est écrit « Bed retour de pause, Harlem quelque chose ».
Ouais.
Ah, j'aimerais ça qu'on ramène le Harlem Shake.
Ah oh, ouais, c'est pas ça.
Il y a du monde qui vont naître un jour, puis ils sauront pas c'est quoi le Harlem Shake.
C'est quoi le Harlem Shake?
C'est une espèce de mode ou... qui a duré deux semaines, là, ces réseaux sociaux, là. Où les gens, ils mettaient la tune qui fait « Dude, the Harlem Shake ». Point, 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 point. C'est une bonne imitation.
Ça a l'air super bon.
Puis là, ils se mettaient à danser comme des épais. Non, c'est le fait d'une génération. La fierté d'une génération. L'effet Dunning-Kruger. C'est comme ça que ça s'appelle,
oui,
la théorie.
Ce l'effet qu'on cherchait tantôt.
Oui, l'effet Dunning-Kruger.
La surconfiance.
Biais cognitif selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. On peut le rapprocher de... Hey boy, j'aurais pas dû me lancer là-dedans. L'ultra-crépidarianisme.
Ça reste comique parce qu'on a tous des noms en tête.
Ouais, mais savez-vous quoi?
Ben oui.
Mais c'est peut-être nous aussi, là.
Ouais, c'est ça, savez-vous, c'est ça le pire, c'est qu'on est sûrement dans la tête de quelques personnes aussi qui pensent à chacun d'entre nous. On est toujours l'incompétent de quelqu'un, mais ça, faut pas l'oublier.
Notre job nous oblige, à toutes les fois qu'on fait une discussion sur un domaine dans lequel on n'est pas extrêmement compétent, là, mais qu'on fait de l'opinion, puis on donne nos avis, puis qu'on discute, là, on est là-dedans, à côté d'embarreux. Hey, la pandémie, là.
Ouais.
Ça dépend la nature de ton commentaire. Si t'es capable de te détacher du commentaire émotif puis tout ça, t'es capable de le faire de façon rationnelle.
Fais vos recherches! C'est ça la patente.
Ouais, mais on n'a pas plus de connaissances qu'un expert, par exemple, en santé, là.
Non, c'est ça.
On s'est tous prononcés sur ce qu'on croyait.
C'est ça.
Mais l'important, c'est de dire je crois, c'est de dire peut-être que je penserais que, peut-être non, pas. C'est ça.
Ouais, mais t'as le droit de remettre en question, ben, de soulever des questions, de soulever des irrégularités. Tu sais, par exemple, là, je sais ici qu'il n'y a personne qui est dans le « Hey, non les masques, non la 5G », mais les patinoires extérieures, je comprends pas. Ça, j'ai le droit de dire ça. Je comprends pas c'est quoi la logique.
Mm-hmm.
Mais il y a même une logique, là, c'est des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi qui prennent la décision. Mais, bon, dépendamment des villes puis des zones... on va pouvoir aller à la patinoire, on va pouvoir avoir un bâton, puis une puck, puis des patins.
Un but.
On peut faire un but, ça dépend des villes.
Ça dépend.
Mais il faut que tu sois avec des gens de ta bulle.
Mm-hmm.
Il peut y avoir du patinage libre à travers. Il peut y avoir un max de 25 personnes. Les chalets vont être ouverts, mais on peut pas jouer au hockey.
Sais-tu ce que ça veut dire en gros?
Ça, ouais. Je comprends pas.
Il demande aux villes de s'organiser, d'avoir des plages horaires prises. En ce moment, là, à l'aréna de Saint-Og, par exemple, on peut aller patiner. Je sais qu'à Québec, depuis peu, on peut également revenir dans les arénas puis tout ça. On peut aller patiner. C'est maximum 20 personnes ou à peu près. On peut aller à la piscine. C'est maximum 20 personnes aussi. Puis c'est dans ta bulle, tu t'approches
non,
pas
non,
des gens autour. Puis...
Mais mon point, par rapport à l'effet de Dunning-Kruger, là,
ouais.
C'est que moi, je suis pas compétent. Fait que je fais attention de pas surestimer ma compétence, de pas avoir
bon
trop
point.
Confiance en ma compétence.
Mm-hmm.
Mais... Je peux quand même dire que je me semble que je comprends pas
ah,
trop.
Ah, ben oui.
C'est quoi le rapport de dire aux gens, oui, pas trop, ben, allez-y à patinoire, mais avec les gens de votre bulle. Il va y avoir des gens d'autres bulles parce que c'est max 25. Vous pouvez avoir un bâton pour une rondelle, mais les chalets vont être ouverts, mais on interdit les matchs. Fait que on va être là avec nos bâtons, nos pucks, avec des gens qu'on connaît pas, qui sont pas dans notre bulle, mais ça sera pas nos chums parce qu'on n'a pas le droit d'y aller avec nos chums.
Mais là, mettons, l'effet de Dunning-Kruger.
On peut pas jouer.
Moi, je peux-tu t'apporter?
Je comprends pas le rapport.
Je peux t'apporter un élément de réponse qui me semble assez évident, c'est que le hockey, quand tu joues, ton rapprochement est un peu inévitable, alors que dans le chalet, tu peux le contrôler, en patinage libre, tu peux le contrôler. Mais tu sais...
Mais chalet intérieur.
Mais je te le dis sans aucune certitude, c'est une impression. Puis là, je pense qu'on est vraiment dans le Dunning-Kruger, comme
bon,
tu dis.
C'est
non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant, ça.
Ouais, ouais.
D'être capable de nuances dans la vie, c'est important.
Ben oui. Il y a une affaire que j'ai appris de Myriam Segal, c'est de toujours, avant de juger quelque chose,
mm-hmm.
ou quelqu'un surtout, là, Tu sais, ça arrive mille fois. Hey, là, ces temps-ci avec la pandémie, si tu as, tiens qu'un peu, on est parti de famille et tout, puis on est comme, ouais, là, il y a un mononcle, lui, il est comme, il pense ça. Moi, je pense ça. On est comme pas d'accord tout le temps, tout le monde en famille, là.
L'ère des débats, là, 2020.
Ouais, ça fait que là, tu sais, on va genre être tout le temps.
Confrontation.
En confrontation, puis on va tout le temps dire, non, t'as pas raison, toi, t'as raison et autres. Ce que Myriam Segal m'a appris, c'est toujours avant de
confronter,
destiner. Essaye de comprendre pourquoi cette personne-là pense ça, ou pourquoi cette personne-là a cette valeur-là. Fait que, tu sais, ça s'applique à tout. La gauche, la droite, souverainiste, fédéraliste, canadien, nordique, on s'en fout. Juste, avant de faire comme, non, c'est pas ça. Juste de comprendre, OK, pourquoi lui, mettons, pourquoi, mettons, Manon Massé, full de gauche,
surtout,
de même, là,
plus t'sais. Tu connais les personnes, t'es capable de faire ça, là.
Oui, c'est sûr. Mm-hmm. Mais tu peux même, juste de faire l'exercice des fois, là. Je vous l'avais conté, je ne vais pas tout refaire l'histoire, mais l'exemple que Myriam m'avait donné, c'était pendant ses voyages aux États-Unis, dans le bout de l'élection de Donald Trump. Là, moi, j'étais plutôt du genre à dire, ça se peut-tu élire Donald Trump? Ils sont fous, les Américains, ils ont élu un gars qui n'est pas compétent, puis c'était un malade, c'était un clown, gnagnagna. Puis elle m'avait raconté l'histoire du gars, justement, qui avait tout perdu dans la crise économique de 2008, puis qui lui avait fait l'association que c'était de la faute aux politiciens.
Fait que lui, c'était sûr qu'il allait voter pour Donald Trump.
Exact.
Ah oui,
et quand elle m'avait raconté ça, j'avais fait... Ben, c'est sûr que le gars, si à tous les matins, il se lève puis il voit sa maison placardée qu'il a perdu aux mains de la banque puis il pense que c'est à cause de la gestion du politique, de la crise économique et autres.
Même
c'est
chose
sûr
va
ce
arriver,
gars-là, il pense ça.
Même chose va arriver aux élections provinciales dans quelques années. Là.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Les commerçants.
Il y en a qui ne voudront rien savoir de voter pour Legault.
Oui. Ah ben c'est sûr.
Peu importe ce qu'il va te dire.
C'est sûr.
Qui ont perdu l'entreprise familiale, qu'ils ont bâti après des années, qui était leur source de revenus, puis qui allaient assurer aussi les revenus probablement de leurs enfants qui travaillaient aussi au sein de cette entreprise-là. Puis l'exemple le plus flagrant, je pense, de se mettre à la place de l'autre puis d'essayer de comprendre la fermeture ou l'ouverture de certains, c'est le temps des fêtes. Toi, mettons, ton père, là, tu le sais, qui est condamné, sa maladie, son cancer va l'emporter dans les prochains mois.
Ouais.
Mais tu peux pas te rassembler. Mais tu sais que ton père, tu vas le perdre. Mais tu vas te rassembler. Mais ton voisin va te juger. Mais tu te dis, c'est pas grave, c'est le dernier Noël,
c'est
mon
ça,
père.
C'est ça. Ben oui, puis c'est un des commentaires qu'on a reçus, tu sais, quand on parlait du temps des fêtes, qui disait les parents, 90 ans, c'est le dernier Noël, j'aime mieux prendre le risque. Parce que c'est peut-être le dernier. Bref, avant, hein, c'est la petite minute philosophique,
oui.
À matin. Avant de se choquer, là, faut essayer de penser.
Avant de se choquer.
Ouais, tu sais. Juste avant de débattre, ça vaut la peine de discuter.
Alors, l'effet Dunning-Kruger et l'autre mot que tu n'as pas été capable de dire tantôt, puis je pense que je vais le massacrer aussi. Puis c'est intéressant.
Non, non, je suis capable, c'est facile, c'est l'ultra-crépadiatonianisme.
C'est ça.
Maudit, je l'ai manqué. Les nouvelles! Alors, Queen P. Qu'est-ce que t'as pour nous ce matin?
Je reviens sur l'histoire de l'adolescent autiste qui a tué sa mère avec un couteau à steak. Là, les plaidoiries se sont terminées hier au palais de justice de Québec. Là, il reste à la juge Fanny Côté de déterminer à quel point la déficience intellectuelle du jeune homme de 17 ans a joué un rôle dans le meurtre. En ce moment, il y a deux façons de voir qui s'affrontent. Soit l'avocat du jeune autiste qui, lui, estime qu'il devrait bénéficier d'un verdict de non-responsabilité criminelle. Et la poursuite, elle, elle dit que c'est pas en raison de ses problèmes de santé mentale que Jérémy, non fictif, a tué sa mère, mais plutôt parce qu'il y avait des problèmes de comportement. Donc, vous voyez, les deux histoires s'illustrent et ce sera à la juge Fanny Côté de prononcer le jugement. Et ça va se faire à la fin du mois de février. Et important quand même dans le dossier, si Jérémy, non fictif encore, devait être déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de sa mère, bien la couronne a annoncé qu'il allait requérir d'une peine pour adulte, malgré ses 17 ans. Alors, c'est ce qui dessine dans le dossier là, qui a donné des frissons à bien des gens ici dans la ville de Québec.
Hey boy, c'est compliqué, ça.
C'est très compliqué
parce que... Juste à être sûr d'avoir bien compris, parce que franchement, je l'avoue, là, quick disclaimer, j'ai pas suivi cette histoire-là depuis le début, là, mais le gars est autiste.
Oui. C'est un jeune homme qui vivait pas avec sa mère. Okay? Il vivait dans une maison où on s'occupait de lui, on s'occupait de ses besoins. Sa mère allait le chercher une fois de temps en temps.
Donc, autiste... Assez sévère, assez lourd pour qu'il habite plus, etc.
Absolument. Donc, pour des raisons que ça leur appartient, on s'entend. Sa mère allait le chercher une fois de temps en temps pour passer du temps avec lui. C'est son fils, elle l'aimait. Il y avait quand même une relation, les deux ensemble. Il y a une journée où ça a mal viré. Sa mère a empêché Jérémy de continuer de jouer avec sa tablette. Ça l'a fâché. Ça l'a fâché au point qu'il a commencé à la frapper de façon très violente. Et quand elle est sortie de l'appartement pour aller chercher de l'aide auprès des voisins, elle disait appeler la police et tout. Elle savait que son fils était plus en contrôle, mais geste, c'est allé plus loin. Pendant ce temps-là, lui est allé chercher un couteau parce qu'il voulait pas que la police s'en mêle et il a vraiment mis fin à la vie de sa mère.
Mais la question, c'est que je me pose, c'est la couronne, essaie de défendre que...
c'est pas juste c'est parce qu'il est autiste qu'il a posé juste geste, là.
C'est dur à faire valoir, bon, en mot, t'as dit, là. Je veux dire, t'as bien beau avoir des problèmes de comportement, on a vu, on en connaît. Je veux dire, j'ai quasiment 10 ans de terrain de jeu que j'ai fait, j'ai vu des jeunes qui ont des comportements, tu te dis, mais voyons. Mais un jeune de 16 ans, tu l'empêches de jouer avec sa tablette, puis il poignarde sa mère. Non, mais tu sais,
parce que dans son passé à ce jeune homme-là, dans les plaidoiries, puis ce qu'on a su, c'est que à chaque fois où on lui qu'on lui refusait quelque chose, ça virait mal. C'est là où il y avait des problèmes d'agressivité, de compulsivité, où ça dégénérait parfois. Là, ça a dégénéré dans une autre proportion, on s'entend, là. Mais c'était prouvé, là, par certains avocats que Jérémy avait du mal avec son comportement, là, avec le fait de se canaliser.
Je comprends, mais en tout cas, c'est juste, j'essaie de voir comment ils peuvent faire valoir...
C'est la bataille d'experts.
Oui,
c'est le principal problème de la justice en ce moment, puis il n'y en a pas vraiment de solution. C'est
comment
des batailles d'experts.
Que les problèmes de comportement sont pas liés avec la condition...
Hey, méchant contrat, là.
C'est ça que la juge Côte, elle a devant elle. Là. C'est ça qu'il va falloir qu'elle
décide. En tout cas, c'est juste mes deux scènes, là, on s'entend, mais je comprends pas comment tu peux dissocier ça, tu sais, en tout cas. D'un autre côté, ben ils peuvent faire valoir que il y a des gens qui ont des problèmes de comportement.
Mais c'est pas tous les autistes qui tuent les gens également.
Non, non, non.
Si tu veux le raisonnement, si tu le pousses, la juge Côte, c'est ça qu'elle va penser là. C'est pas tous les autistes qui tuent des gens quand ils sont fâchés.
Non, c'est sûr, mais la question c'est la question de la responsabilité criminelle.
C'est
là,
ça. Mais c'est ça qu'elle va juger. C'est pas c'est une maladie. Hein, son état d'autiste ne lui permet pas de tuer des gens.
Non, 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 c'est sûr. Mais est-ce que c'est à cause de son état d'autisme?
Sa déficience intellectuelle.
C'est ça que la juge
qui est allé
sur la
aussi
table.
Loin.
Oui.
Il pourrait même faire valoir qu'il y a des gens qui posent ce genre de gestes-là, mais qui n'ont pas qui sont pas sur le spectre de l'autisme.
Ça existe. Exactement.
Tu sais, ça pourrait peut-être être là que tu as une espèce de poignée, là. Mais, boy, c'est lourd.
Intéressant ben oui, c'est quand lourd. Même comme cause, là.
C'est complexe en mots, t'as dit, ouais.
Ce qu'on dit, c'est qu'on veut voir si la maladie mentale, sans pour autant, a un grand jeu dans ce qui s'est passé dernière fois, là, en 2019, quand malheureusement cette femme a perdu la vie entre les mains de son propre fils. Éclosion au Concorde. Vous savez que le Concorde, c'est aussi un centre de convalescence pour la COVID-19. C'est pas juste l'hôtel qu'on connaît depuis la pandémie. En fait, ils ont prêté main forte pour héberger des gens, justement, dans toute cette problématique de la COVID-19. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une éclosion. Radio-Canada a mentionné qu'il y a un dépistage sur l'ensemble des employés qui a débuté. Il n'est pas encore terminé, mais en ce moment, hier, on était en mesure de dire là, que le CIUS de la capitale nationale faisait état de 8 employés infectés à la COVID-19 et aussi 27 usagers qui étaient atteints du coronavirus dans les murs de l'établissement. Il y a une problématique qui vient d'apparaître qu'on ne connaissait pas nécessairement. On sait que les préposés ou encore les gens qui travaillent en santé, qui travaillent au sein des CHSLD, c'est prouvé, c'est démontré que ce sont des employés qui généralement font entrer le virus dans les centres de soins de longue durée quand il y a une éclosion, par exemple, dans un CHSLD. Souvent, c'est parce qu'il y a un employé qui était atteint, qui était asymptomatique et qui a fait entrer le virus. Depuis quand même un petit bout, on a une possibilité de les tester. Il y a des tests qui sont offerts aux employés. Mais on a appris sur les ondes de Cogeco, c'est la docteure Sophie Zhang qui a expliqué que les tests sont offerts, oui, mais que plusieurs refusent de les subir. Et là, ça cause une grande problématique au sein des employés de la santé.
Là, j'ai manqué un bout. Là. C'est les tests de Q-tips ou les tests de...
C'est des dépistages pour la COVID-19.
OK, c'est parce que
sur la rive sud, vous l'avez, le test de...
Gargarisme.
Mais ici, sur la rive nord, on ne l'a pas encore, je crois.
Je ne comprends pas pourquoi ça c'est long de même. Oui, j'avais jasé avec ma chum qui était... Okay. Qui est la médecin coordonnatrice du
autres, on a
de la zone
Q-tips,
rouge à Cap-Saint-Ignace.
Dans le fond de la tête. Pas dans le nez, dans le fond de la tête.
Juste en arrière. Là, ils vont chercher le cortex.
À côté. OK!
On l'a! Ça a l'air de cligner un peu de l'œil. L'avez-vous subi, vous autres, le test encore? Non. Moi, je l'ai pas encore. J'ai pas encore eu besoin de le passer. Là.
Non, c'est ça.
Mais je vois les images à TV, là. Ça a de la
ils vont avec vigueur également.
T'sais, tu vois les gens qui essaient de garder les yeux ouverts, ils viennent les yeux pleins. Tu sais, quand tu te cognes le nez, là, tu viens les yeux pleins d'eau, tu fais comme, je pleure pas! Je me suis cogné le nez!
Ça doit faire un petit choc.
Ouais. Mais là, t'es comme, tu essaies de garder les yeux ouverts, ils viennent bien pleins d'eau, puis les yeux, ils te ferment tout seul parce que je pense que c'est à cause qu'ils pognent la connexion dans la tête, dans le cerveau qui te fait fermer l'œil.
C'est le
5G. C'est le 5G, c'est ça?
Ils pognent l'antenne. Plus loin un peu.
Il pogne l'antenne. Ah, oh, que ça a de l'air déplaisant. Mais ça a de l'air que tu prends de l'eau SCA, là.
De l'eau SCA.
De l'eau SCA.
La meilleure.
La meilleure, la
ça,
très
c'est de l'eau SCA, mais recyclée.
C'est de la Scott Lévier, ça?
Oui.
OK.
Scott léger.
Light. La light. Et puis, tu te gargarises avec ça. Ils mettent ça dans la machine. Ouais. Puis ça te le dit bien vite.
Puis ça, c'est moins pire un peu.
Ouais, je comprends pas pourquoi ça va pas plus rondement établir ce protocole de test-là. Ça semble, là, hey, go, let's go, puis on teste tout le monde, ça va bien. Encore une fois, je tombe tranquillement pas vite dans le donner, gros gars. Non, mais en même temps, je te dis ça, mais c'est pas
ça
vrai.
Ça va t'en hanter toute la journée.
Non, mais ma chum est médecin responsable de la zone rouge au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Mm-hmm. Puis je lui parlais de ça, ce fameux test-là, puis elle-même me disait, ben, je présume que ça va s'en venir dans les autres établissements. Ouais, ça commence à s'implanter, mais ouais. C'est pas encore implanté partout. Mm-hmm. Mais j'imagine que ça va être le cas prochainement.
Il y a le bilan quotidien de la COVID-19 aux 6333 nouveaux cas, 23 nouveaux décès qui ont été recensés. Montréal, c'est quand même gros, là. 400 nouveaux cas qui ont été détectés dans les dernières heures. Québec, 162, ça monte encore. Je veux dire, Appalaches, 23, c'est très peu, là, mais ça varie beaucoup dans les derniers jours. On a monté 50, on est redescendu là à 23. On a 30 nouveaux cas parfois, mais 23 nouveaux cas pour Chaudière-Appalaches dans les dernières heures. Vous savez qu'on a fait des tests sur la ventilation, sur les systèmes de ventilation dans des établissements de santé dernièrement. Et on se demandait beaucoup à l'Assemblée nationale pourquoi on l'avait pas fait dans les écoles de la province. Et là, ça va se faire. Donc, Québec va effectuer des vérifications.
Les tests de radon, on l'a appris hier.
La qualité de l'air dans différentes écoles de la province, ça va être fait. Radio-Canada le mentionnait. C'est à partir d'aujourd'hui qu'il y a des centres de services scolaires qui vont procéder à ces tests-là dans les salles de classe. Important pour certains parce que on voit que peut-être la COVID-19 pourrait être propagée dans ces établissements-là qui sont à risque. Et les tests vont permettre de mesurer le niveau gaz carbonique, de regarder la ventilation dans les écoles. Pendant plusieurs semaines, on a réussi à ouvrir les fenêtres, à ouvrir les portes pour faire une meilleure ventilation.
On appelle ça le protocole d'aération manuelle.
Voilà.
Il y avait un communiqué, courriel aux parents, je ne sais plus trop. Là.
On a un protocole.
Oui, puis il me semble, si je ne me trompe pas, il me semble que c'était dans la région ici.
Okay.
Que le centre de service ou que l'école avait envoyé un message aux parents pour dire, ben évidemment, on applique le protocole d'aération manuelle qui consiste à ouvrir les fenêtres.
C'est bon.
Tout ça a été fait en lien avec les acteurs du milieu. Tout le monde a été consulté.
Collaboration
avec les
des beaux mots, pareil. Ah. Hein.
Avec, on a été proactifs.
Jean-François Robert, j'est un king pour parler de cette façon-là.
Ouais.
Le ministre de l'Éducation, il est pas pire.
Oui.
Ici, on vient d'enclencher le processus, d'après moi, de protocole.
Il y a un protocole de refroidissement automatique.
Il y a un petit vent froid qui vient d'arriver.
Mais j'ai vu Pierre se lever. Est-ce que c'est avec ça que tu as joué dans les derniers
instants? Non, je savais prendre une marche, voir si le boss est arrivé.
OK.
Il avait tout je ne sais pas quoi. Là, mais...
Pierre, lui, a son propre frigo.
Oui, mais non, mais on se rend compte que j'ai beau avoir mon piton, puis vous autres, votre piton, là, ça communique plus qu'on pense.
On a fait des enquêtes, Pierre et moi, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un jeu entre les deux locaux.
On a dépassé Dunning-Kruger, nous autres.
Faites vos recherches.
Des enquêtes importantes.
Mais il faisait fret, puis il faisait plus fret. Fait que tout était correct.
Étiez-vous devant chez Legault en fin de semaine, vous autres?
Ouais.
Non, on était devant chez John.
John and Mary.
OK, je comprends.
Ça, c'est une nouvelle vraiment triste qui est entrée hier parce que c'est un sondage qui a été réalisé par une firme montréalaise. Elle s'appelle Synopsis Recherche Marketing pour les intéressés. Ça a été fait pour la guignolée des médias. On est dans l'air en ce moment de savoir qui a besoin d'aide pour manger, tout simplement manger.
Oui.
Et ce que j'ai lu, c'est qu'il y a un Québécois sur trois qui a dû nourrir un proche depuis le début de la pandémie. Donc des gens.
Un sur trois?
Un sur trois, c'est énorme comme statistique. C'est pas.
Ça compte pas moi qui fais à manger à ma blonde?
Non, ça compte. Okay. Pas toi qui as fait à manger à ta blonde.
Okay, okay, okay.
Sinon, ça augmenterait, je pense, à presque, presque un Québécois sur un Québécois. Là.
Ouais,
on constate qu'il y a aussi 27 % des personnes qui sont sans emploi, qui sont incapables d'assumer leurs dépenses en alimentation. Là, je ne parle pas en petite bière de microbrasserie, vraiment en alimentation, la base de ce qu'on a besoin dans la vie. Et puis, on ne pourrait pas y subvenir au-delà de 4 semaines si le gouvernement cesse d'aider ces gens-là. Donc, quand le soutien gouvernemental va cesser, pas sûr qu'il va cesser un jour. Là,
non, surtout. Justin a encore déplié, pas pire hier.
Exact. Et puis, ça va continuer fort probablement, mm-hmm. même au moment où on sera vacciné. On peut pas laisser des gens ne pas manger à base.
Ben, c'est ça.
Mais si ça avait arrivé 4 semaines et c'est terminé pour ces gens-là, il y aurait vraiment besoin d'aller cogner à n'importe quelle porte pour manger. Il y a un Québécois sur 5 qui a dû se priver d'aliments de base. Ça aussi, c'est une grosse statistique. 18 % qui ont été forcés de renoncer à l'achat de médicaments en vente libre ou sous ordonnance, donc des gens qui sont pas capables de se médicamenter par rapport à plein de maladies. 17 % qui sont incapables de manger des repas équilibrés. Et enfin, on dit que Noël pourrait s'avérer difficile pour plusieurs parce que 25 % qui ont peu confiance de pouvoir s'offrir leur repas préféré durant les fêtes. Ça, c'est une chose, de pas pouvoir manger, par exemple, les saucisses dans le bacon quand t'as envie d'en manger. Ouais. Mais c'en est une autre d'apprendre qu'un Québécois sur trois qui a eu besoin d'aller cogner à la porte d'un proche pour manger.
Il y a un monsieur qui fait des belles... C'est la bouchée généreuse, je pense que ça s'appelle. C'est en face du centre Vidéotron. Mm-hmm. C'est monsieur Gravel, ça. Et ce monsieur-là, il est généreux, terrible. Puis hier, il disait que c'est maintenant, c'est les petites familles là, qui viennent chercher de la nourriture. Là.
Les parents qui ont perdu leur emploi, là, qui voient leur vie basculer. Il y a des ventes de maisons aussi qui sont associées à ça.
Oui.
Commence à avoir des dommages collatéraux financiers, la pandémie, qui sont importants.
Je vois passer des messages sur Facebook, par exemple. Ça va chercher le beau dans le monde quand même. Mm-hmm. Je vois passer beaucoup de messages depuis le début de la pandémie même, je dirais, mais particulièrement en ce moment, de gens, tu sais, des connaissances là, de qui j'ai pas de nouvelles peut-être depuis une couple d'années, mais du monde. Puis qui tout d'un coup, je me dis, c'est du coup, je me serais pas attendu à ça de cette personne-là. D'écrire là, hey, là, si vous avez faim ou si vous connaissez un proche là qui a rien dans le frigo, puis appelez-moi, là, je viens de faire une épicerie, là, puis je vais vous donner du stock. Tu sais, c'est comme. C'est hyper spontané. C'est demande à rien en retour. Mm-hmm. Tu sais, je suis sur un groupe Facebook aussi de citoyens du quartier Saint-Sauveur. Il y a tout le temps des groupes Facebook.
Les gens qui sont prêts à aider, à donner.
Hey, y en a un, là, je sais pas c'est quoi sa business. Il y a un resto, ben quelque chose, mais je vois ça passer à peu près une fois par semaine, là. Il prend une photo, il y a des frigos partage qui appellent là, dans le quartier, là, qui sont des frigos publics.
Les gens vont porter des choses dans le frigo.
Ils vont porter des affaires.
Les gens vont chercher des affaires.
Ouais.
Puis les restos qui dompent aussi, ça se peut-tu dans ces restos-là?
Il y a ça, il y a vraiment de tout, là.
OK.
Puis, mais lui, il fait des repas chez eux, ou en tout cas, je sais pas si une cuisine de production, c'est vraiment chez eux, mais il fait des repas, il met ça dans des petits contenants, là, puis il remplit le frigo. Là, il prend ça en photo puis il met ça sur le quartier. Là, je viens de mettre des pad thai, je viens de mettre des lasagnes, je viens de mettre ci, je viens de mettre ça. Il en a tant, il en a 40, il en a 25.
Il doit plus en rester.
Si vous avez faim, allez-y.
Une demi-heure.
Ben, je suis jamais allé voir, tu sais, à quel point ça partait vite. Mais je vois qu'il y a des gens, par exemple, qui écrivent, hey, merci, la semaine passée, j'avais plus rien, puis j'ai pu avoir un repas grâce à vous autres. C'est comme une espèce de... Ça, il y a personne qui parle de ça. Il y a personne qui fait des entrevues pour les féliciter. Il y a personne qui... Jamais... Il n'y a pas un organisme, même si je salue le travail des organismes, tu sais, ils font beaucoup avec pas grand-chose.
Oui.
Mais c'est le beau côté, là. Quand il y a de la misère, puis quand il y a de la marde, les gens, les Québécois, on est quand même capable de faire... instinctivement, aïe, moi, c'est le temps que je donne un coup de main. Puis ça se fait tout seul, on dirait.
Il y a un commentaire qui vient de rentrer. Je travaille dans un organisme en aide alimentaire. Nos demandes ont doublé. La phase de la pauvreté a extrêmement changé depuis la pandémie. Beaucoup de jeunes familles, des personnes dans la vingtaine. Puis la semaine passée, je me rappelais que je lisais une nouvelle qui disait que c'est beaucoup les gens dans la vingtaine, 20 à 30, qui ont quitté le marché du travail parce qu'il y avait des emplois en restauration ou autre. Ça a tout fermé. Ouais. Fait que ce serait eux qui demanderaient de plus en plus à avoir de l'aide, là. Juste pour manger.
Je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Puis c'est aussi l'espèce de... Le problème aussi, je disais, de entre autres, Moisson Québec et autres, où, tu sais, moi, je viens de Lévis, je me souviens, on avait donné un coup de main une année au comptoir Le Grenier, tu sais. Puis ce que la madame, elle nous disait, c'est qu'il manque pas d'un sens. Ben, tu sais, ils font leur campagne à chaque année, puis c'est parce que les gens donnent qu'ils sont capables de faire leur travail. Mais elle disait, on fait nos campagnes, mais nos campagnes, ils fonctionnent très bien. Là. Quand on demande de l'argent, quand on demande des denrées, ça marche tempête. On en reçoit, c'est super. Même qu'ils sont rendus à l'étape de dire si on peut avoir des denrées qui sont pas juste des soupes alphabites, là. Tu sais, on peut dire, si vous avez des denrées qui sont un peu le fun aussi, tu sais, ça nous permet de faire des beaux paniers et autres. Mm-hmm. Mais les gens les demandent pas. Les gens sont orgueilleux. C'est comme tu dis, regarde, j'ai rien dans le frigo, j'ai faim, mais c'est pas vrai que je vais m'abaisser, entre guillemets.
Ça se comprend.
Ben, complètement, moi, je juge pas ça. Mais c'est le constat qu'elle faisait.
Ouais.
Les gens, ils osent pas. Ou ils réussissent à tellement se convaincre que c'est pas si grave puis qu'ils vont s'en sortir qu'ils réalisent pas que les enfants vont peut-être se coucher puis auront pas mangé, là.
Je sais pas, bon, ça arrive dans n'importe quelle génération, mais moi, je vois aussi la génération du pourvoyeur de famille qui doit vraiment subvenir aux besoins, justement, de sa famille puis que ça devient difficile quand il n'y a plus ce rôle-là parce que lui, mettons, il arrive quelque chose dans sa vie puis ça va pas bien. Je pense que j'avais déjà compté, Paul, là. mais c'est pas le fun à compter, c'est pas facile à compter. Mais mon père avait un collègue à un moment donné qui s'est séparé puis ça a mal viré. Il avait ses 3 enfants à sa charge puis Noël, il voyait ça comme vraiment difficile. Il savait pas comment il allait pouvoir faire manger ses enfants autre que mettons du Kraft Dinner. Puis je me demande si j'en mets là. Puis il travaillait comme un forcené pour payer plein d'affaires au travers. Puis mon père avait vu ça, puis il savait que c'était un homme qui était fier. Là. Pas juste fier de ses enfants, fier dans le sens de sa personne, de ce qu'il a toujours été. Puis il avait demandé les clés de voiture à son collègue. Il est arrivé en disant « Hey, ta voiture est dans le champ, je peux pas passer. » Il avait ouvert le coffre, il avait mis une épicerie, il avait fermé le coffre. Mmh. Il avait laissé son collègue partir. C'était à une température, là, on n'a pas un mois de novembre normal, décembre normal, là, mais il faisait frais pour que ça se conserve. Puis son collègue, il était vraiment fâché contre mon père.
Ah, il avait mal pris.
Ouais, puis il avait fait une épicerie là, je me rappelle, c'est comme mettez ce que vous aimeriez manger les filles aussi dedans pour que les enfants soient contents de manger ça. Puis il était fâché, ça a pris. Je pense que ça a pris 3 mois avant qu'il vienne remercier mon père. Puis mon père faisait pas ça pour remercier.
Moi aussi je peux comprendre.
Mais c'est-tu moi dans ma tête? C'était inconcevable parce que mon père demandait rien. Mon père voulait pas un retour. Il n'en a pas parlé au bureau. Il a juste dit comme je veux qu'il passe un bon temps des fêtes puis il se casse pas la tête.
Mais l'autre l'a pas demandé. Un message. C'est ça, il l'a pas demandé. Ça vient.
La fierté, là, quand tu fais un appel à ta fierté intérieure, faut que ça vienne de toi. Je blâme pas ton père, c'est tellement un beau geste, là. Mais moi, je peux comprendre, honnêtement, j'aurais pas beaucoup apprécié non plus.
Tu reçois ça. Moi, je l'aurais apprécié, mais j'aurais été pareil, trop d'orgueil pour dire hey, merci, je l'apprécie.
Mais ça, il voulait pas ça. Ça aurait pris du temps. Mon père voulait pas ça, mais il voulait le fâcher. Il est revenu tout débouté en se disant hey, j'ai tellement pas voulu fâcher personne.
Non, c'est sûr.
Je lui ai dit là. Dis que c'est toi, dis pas que c'est moi. Parle-en à personne, j'en ai parlé à personne.
Non, mais c'est parce que ça vient. Mon père envie, ça vient avec un message, que tu le veuilles ou non. Puis c'est plate, là, mais en tout cas, c'est ce que moi je percevrais.
Moi, je suis pas dans le trouble, toi, tu l'es.
Non, mais non. J'ai remarqué que t'étais tellement dans le trouble que je vais t'aider.
Il en parlait, le collègue. Il en parlait, c'est
oui,
ça?
Oui, mais.
En cachette.
Mais
à mon
ça
père.
Veut pas dire, ça veut pas dire aidez-moi parce que là, ça va pas. Mais je te dis ça, c'est 100% émotif parce que quand tu regardes ça froidement.
C'est de l'orgueil mal placé.
Ben oui. T'as besoin d'aide, quelqu'un t'aide. Ouais. Prends-les.
Puis mon père n'était pas fâché en passant.
La fierté, là.
C'est important de dire que mon père n'était pas fâché contre la réaction de son collègue. Il savait qu'il y avait une chance sur deux. Que ça passe moyen, mais qu'au bout du compte, ça allait être ses tablettes pareilles. Ouais. Puis que quand il allait manger ça avec ses enfants, bien qu'il soit orgueilleux ou autre, il allait manger ça avec ses enfants. Mais pour moi, on dirait que c'est trop pas dans ma façon de voir les choses, surtout quand tu demandes rien en retour. Puis je suis pas fâchée contre cette personne-là non plus.
Non,
là.
Non. Mais moi, je suis du genre que si je te demande pas quelque chose, décide pas pour moi.
Ouais.
Mais je sais que c'est de l'orgueil mal placé. Je comprends ce que Ray dit, puis je suis assez d'accord avec ça aussi.
Juste deux trois petits textos là-dessus, puis après ça, on va passer à la prochaine nouvelle, mais je trouve ça intéressant d'en parler.
Oui, vraiment.
Déjà, il y a plusieurs personnes qui ont écrit qui par rapport à mon histoire de resto, de voyons, frigo partage. On nous parle du resto Kim sur Saint-Vallier. Ce serait le propriétaire ou l'ancien propriétaire du resto Kim. Ben, je le salue, puis félicitations. T'sais, à chaque semaine, il en fait, là. C'est vraiment... Tu sais, s'impliquer sa communauté, pour moi, c'est ça. Puis ensuite, il y en a qui dit, c'est peut-être pas juste de l'orgueil, mais qu'ils en ont pas besoin. Non, non. Il y a vraiment une part de... Puis moi, ce que je vous racontais, c'est ce que la madame du comptoir Le Grenier me disait, mais juste après, il y a un autre message qui dit, je suis maman monoparentale, je me suis toujours débrouillé pour qu'il manque de rien. Cette année, avec la pandémie, j'étais obligé de piler sur mon orgueil et d'aller demander de la nourriture. La première fois que je l'ai faite, j'étais très mal. C'était une déception pour moi. Et aujourd'hui, je réalise qu'ils sont là pour aider puis qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide.
Mais ça doit être dur de faire la file, là. Sûrement. Tu t'en vas à Moisson-Québec,
Je voudrais être n'importe où ailleurs que dans cette file-là.
Sincèrement, je changerais mon look. Je changerais mon look.
Tu mets ton capuchon puis tu regardes à terre. Mets-en. Et pourtant, on est là pour s'aider, tu sais, tout le monde ensemble.
C'est beau, en motadier qui existe. Souvent, moi, j'aime ça quand on a l'impression qu'il se passe du trouble ici, puis de la merde, puis des manifs, des affaires. J'aime ça regarder un peu ce qui se fait ailleurs, tu sais, dans d'autres pays. Je me dis tout le temps, c'est tout le temps pas si pire. Tu sais, le racisme systémique, ouais, mais il y a d'autres places où le monde sont pas mal plus racistes qu'au Québec. J'aime ça comparer. Puis, je peux te dire une affaire au niveau de l'aide qu'on offre justement aux gens qui sont dans le trouble, là. C'est beau, moi, t'as dit, de penser que chez nous, il existe ces services-là. De penser que le jour où tu pourrais tout perdre, parce que ça se peut tout le temps que ça arrive, là, tu creveras pas de faim. Notre système a bien des défauts.
Personne n'est à l'abri de ça.
Mais il y a la qualité que si la bad luck te tombe dessus, puis ça peut arriver, genre une pandémie mondiale, tu vas pouvoir aller demander de l'aide puis qu'on va te donner à manger.
Sauf que je vous écoute c'est depuis beau, le début. Puis l'épicentre du problème, c'est même pas les ressources, là. C'est pas ça. L'épicentre du problème, c'est pourquoi les gens vont avoir un blocage à aller chercher de l'aide. Ben, est-ce qu'on tape sur le mauvais clou?
Un auditeur qui dit quand tout ce qui reste à un gars, c'est sa dignité,
ouais.
Tu fais attention de ne pas lui enlever.
C'est très bien dit. C'est très beau. Puis
c'est
en
pour
même
ça
temps,
le gars qui avait mal réagi là, au coup de main de ton père. Là, c'est que tu sais, quand t'es rendu à avoir presque tout perdu comme ça, là, puis qu'il te reste ta dignité, puis que t'as l'impression qu'on t'en enlève une partie parce qu'on te dit, garde, tu m'as rien demandé, mais je vais t'aider parce
j'essaie
que je vois bien là que, ouais, que ça va pas tes affaires. Là. Que tu le veuilles ou non, tu peux avoir un sentiment de je me sens inférieur, lui il se sent supérieur. Ça veut pas dire que c'est vrai.
Oh oui, de
mais
hiérarchisation
ça
dans
touche
la
dignité.
Puis pourtant, ouais, je veux dire, mon père, il vit pas dans un palais, mais pas du tout. C'est pas quelqu'un qui est au-dessus de ses moyens, puis pas pantoute. Là. Il y avait pas cette façade-là. Puis quand je sors de cette histoire qui est assez personnelle, merci, mais que ça me fait plaisir de vous raconter ce matin, là, quand même. Je trouve qu'on peut dire que c'est une histoire de dignité, on peut dire que c'est une histoire d'orgueil, on peut dire que... Mais moi, j'aimerais mieux me faire aider par des proches que j'apprécie, à qui j'ai confié mes problèmes, ma situation, que d'aller faire une file à la Boucherie Généreuse, par exemple.
Mais, si
mais
la
en
file,
même temps...
Ça peut être anonyme.
En même temps, je veux faire la file pour que j'ai plus cette problématique financière.
Mais la morale de cette histoire, c'est... N'hésitez pas à demander de l'aide. Ouais. Si vous manque de quelque chose, dites-le à un proche. Appelez-nous, dites-nous-les, on va vous aider.
Mais tout ça est bien facile à dire. Hey, je suis tellement rabat-joie, je le sais.
Non, c'est pas rabat-joie, Pierre.
C'est dur, c'est facile à dire parce que...
Non, c'est la belle morale. On fait la morale.
Moi, là, si j'essaie de me remettre dans la situation, je trouve tellement ça intéressant comme cas, Pascal. Quelqu'un qui, on a dit, là, Paul t'a parlé de quelqu'un qui se place un peu au-dessus, puis c'est pas volontaire, mais on le sent comme ça. Moi, c'est quelqu'un que je sais qui gagne 400-500 000 $ par année, puis qui me fait un don. On dirait que ça va plus facilement passer que quelqu'un qui va gagner 50, puis je vais dire, cette personne-là, là, elle se prive alors qu'elle est dans la même situation que moi il y a quelques mois, tu sais.
Ouais.
Alors que si Steph m'arrive avec un chèque lundi matin, puis je sais qu'il n'est pas dans la misère demain matin, puis c'est probablement fait de bon cœur aussi, mais il n'est pas dans la misère, puis je sais pas. Et hey, réflexion, là,
non,
à pour point comme ça, je sais pas.
D'où ça vient, peut-être ça a une influence, mais en tout cas.
Mais ça demeure parfois mal placé.
La belle morale, c'est, pensez-y, si vous hésitez à demander de l'aide, parce que vous êtes convaincu que vous en avez besoin, mais vous êtes réticent à en demander, pensez-y à deux fois, puis dites-vous bien que... À date, là, moi, les gens qui m'ont parlé, qui en ont demandé, il n'y en a pas un qui l'a regretté. Il n'y en a pas un qui m'a dit « Ah, c'était tellement de la merde, jamais je retourne là. » Non.
Puis
les gens l'ont
phrase,
apprécié.
La plus belle phrase, je pense que, en tout cas, moi, j'aurais envie d'entendre.
Pierre qui roule,
là,
n'amasse pas
c'est
moi.
Que si j'ai besoin d'aide puis quelqu'un vient me donner de l'aide, je dois comprendre que la personne ne s'attend pas à avoir un merci. La personne ne s'attend pas à ce que tu remettes un jour qu'elle fait ça en toute connaissance de cause, avec toute la bonté du cœur, puis la personne n'a pas besoin de remercier ou autre. En tout cas, moi, je trouverais ça important de l'entendre. Puis c'est un texto qui m'a fait penser à ça. Il y a un gars qui dit « Mon frère a perdu sa job à cause de la COVID. Il y a deux enfants. Il y a de la misère à payer son loyer. La semaine passée, j'ai retiré 5 000 de mon REER. Je lui ai donné. Sérieux, sa réaction m'a tellement rendu heureux. Il n'a rien dit, mais dans ses yeux, c'était le bonheur. Puis je savais que c'était un cadeau pour lui et sa famille. »
Pour sortir de...
Regarde, les textos qu'on lit, là, sérieux, le nombre de messages qu'on reçoit de gens qui disent « J'ai demandé de l'aide, ça a été comme ça, j'ai été confronté à cette situation-là. » Parce que n'oublie pas que la nouvelle, c'était une personne sur trois.
Oui. Hein? A demandé maintenant, à ses proches,
oui. Au début, je trouvais que c'était beaucoup, puis je regarde les messages, puis j'ai aucune surprise.
Regarde dans les textos. On parlait de Dunning-Kruger tantôt. On a quelqu'un qui s'y connaît pour vrai là, dans le dossier de demander de l'aide et la difficulté. C'est Éric du côté de l'Aube-Rivière qui nous a écrit. Il dit, les hommes ont de la difficulté à demander de l'aide car on renvoie à une image qu'il faut qu'ils soient forts.
Ben oui.
Mais ce que c'est je disais en intro, tu sais, les générations où pourvoyeur de la famille, c'est son rôle. Puis là, tu lui enlèves ce rôle-là, ça doit être difficile. Puis en même temps...
Puis lui, il constate sur le terrain probablement tous les jours. Moi, c'est ça qui est...
J'avais déjà été à l'Aube-Rivière avec Éric Boulay, puis j'avais fait un genre de vox pop avec les gens qui ont voulu me parler, puis je leur ai dit « Pourquoi vous êtes rendu dans la rue? » Puis souvent, on va penser consommation ou autre, mais il y avait beaucoup de « J'ai eu un cancer, j'ai pas été capable de m'arranger.
Wow. »
J'ai eu une séparation qui m'a mis dans la rue parce que j'avais une pension à payer, puis finalement, j'avais pas l'argent qu'on me demandait.
Ben
c'était vraiment des histoires difficiles à entendre.
Non, mais on pense que la rue, c'est juste parce que soit des gens qui ont choisi ça ou parce qu'ils sont nés dans la rue, mais c'est pas le cas pantoute. Il y a des gens qui viennent de tous les horizons, qui peuvent n'importe qui peut se retrouver dans la rue. À part ça, est-ce qu'on a...
Je vais essayer d'être joyeuse. Jour de l'an, il arrive quoi à Québec? C'est toujours été une grosse soirée sur la Grande Allée.
Ben oui, je t'ai entendu parler de ça
ce matin.
Ben
oui, toi, j'ai parlé de ça ce matin.
Pierre.
Oui, j'ai parlé de ça ce matin dans 5 heures. Ça sera quoi le jour de l'an? Le maire Labeaume s'est prononcé hier. Mais ça va être à la maison.
Ça ne jouera pas chez nous, ça.
C'est que ce sera un événement virtuel, mais on n'a pas plus d'informations à fournir pour le moment. Tout ce qu'on dit, c'est que, regarde, on va passer la nouvelle année ensemble pour ceux qui le veulent. On songe à un rendez-vous virtuel. On parle d'un show qui servirait à faire reconnaître et connaître Québec en présentant des attractions.
Vont-tu faire compétition au bye-bye?
Oui.
Ils m'ont offert quelque chose pour l'instant, mais il n'y a pas beaucoup de détails.
Je me rends compte que le bye-bye, vous écoutez ça vraiment, hein? Religieusement, vous autres. Il y a eu un creux de vague, le bye-bye.
Moi, je l'écoute le 1er janvier.
Moi, quand j'étais jeune, on regardait le bye-bye. Oui. Puis quand j'ai vieilli, le bye-bye, c'était pas très bon. C'était moins écouté. Mais là, je vous écoute. Vous autres,
c'est l'émission la plus écoutée de l'année, à chaque année.
Oui, ça vous intéresse, le bye-bye.
Moi, je l'écoute le 1er janvier tout le temps. Ouais.
Moi, je l'écoute rarement en direct, mais cette année, je pense que je vais l'écouter en direct. Là, je me cherchais de quoi à faire, mais...
Toi aussi, t'es un défonceux d'année, Pierre.
Pas grave, je le manque, le bye-bye. Je vous dis
non, tu le regardes pas tout le temps.
Moi, je manque Infoman, ça, c'est sûr.
Mais ah oui, volontairement?
Oui, je comprends pas. Mais c'est une impression.
Moi, ces émissions-là, j'adore ça.
Ah oui?
Je sais pas pourquoi j'aime ça autant que ça, mais c'est parce que j'ai la maladie de la TV, un peu comme Steph. Là. Non, mais moi, je regarde la TV, c'en est un problème de santé mentale. Là,
quelles années, Ray, les bye-bye pas bons pour le fun? Parce qu'il y en a eu.
Ça
là.
Ça doit faire 20-25 ans.
Les années 90,
vague,
hein?
Là, ils se sont demandé si on le faisait ou pas, le bye-bye.
Ouais.
Il y a
fin
pas
90,
eu des... Bonne année, Roger. Puis il y a eu des espèces de tentatives faire de bye-bye, de changer la formule.
Ouais.
Là, ben,
avec Olivier Guimond, ça a été les meilleures années du bye-bye depuis très longtemps. Là.
Oh, oui.
Puis après ça, il y a eu vraiment un creux de vague pendant...
Jusqu'à 2005 ou 2006, ils ont ramené RBO.
RBO,
cette année-là.
C'est ça, jusqu'à RBO.
Ouais.
Là, ça n'avait pas eu le succès des anciens d'RBO non plus.
Les deux bye-bye d'RBO, je pense que ça a de l'intérêt. Là, hein?
Ben là, c'est parce que surtout que cette année, moi, ce que je comprends pas, c'est la ville... C'est pas des mauvaises intentions, mais ça fait deux fois là, que la ville propose des activités, mais qui existent déjà, tu sais. La dernière fois, c'était une émission de TV pour les jeunes, là, avec Comédia. Ils vont faire une émission de TV quotidienne sur Comédia.tv. Mais Télé-Québec a déjà le mandat de faire des émissions jeunesse pour les ados, même public, mandat gouvernemental, toute la patente. Fait que là, moi, je me disais, bon, c'est bien que la ville fasse ça, mais il me semble que c'est pas sa job, pas en tout.
Tu vois comme quelqu'un qui veut jouer.
Mais là, c'est la même affaire. Ben non, mais c'est juste
pas son mandat.
Je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est pas leur mandat.
Les poubelles, les rues,
c'est ça,
là, on vient un peu à base, mais
c'est ça le mandat de la ville.
D'un autre côté, tu sais, le maire Labeaume, qu'on l'aime ou pas, ça demeure un leader d'opinion à Québec, là. C'est quelqu'un qui parle fort puis tout le monde l'entend, là. Tu sais, quand il dit décorer un mois plus tôt, ben, je dis, l'idée est bonne puis ça enlève rien à personne. Bon, fantastique, là. Mais celle-là, là, le bye-bye existe.
Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, je comprends pas.
C'est dur à... En tout cas, quand on aura des détails, peut-être qu'on comprendra mieux.
Il y a presque 4 millions de personnes au total avec les rediffusions qui regardent le bye-bye.
Ah, mais ça ils veut font dire, juste là, chialer que... après.
Non, mais ça... Oui,
mais
ça
veut dire... on est Québécois, on a le droit de chialer.
Mais ça veut dire qu'il va y avoir au moins 2,5 millions à 3 millions de personnes devant le TV
le
31 au soir.
Il n'y aura pas d'autre chose
à faire. Cette année, encore plus.
Mais les rendez-vous sur la Grande Allée, c'était intéressant, ça, pour la Ville de Québec, le 31.
Mais
ça, c'est ça. C'est ça que le maire veut remplacer.
Mais je comprends pas pourquoi il remplace.
Et puis il y a une déclaration, tu l'as-tu Pascal, pas loin, il dit « Je voulais pas que les gens oublient que l'événement existe ». Mais moi je pense que le 31 décembre 2021, là, les gens n'iraient pas oublier que ça existe.
Ils vont vouloir fêter. Mais en même temps, l'offre à la télé est beaucoup sur l'actualité.
Oui,
à part,
c'est divertissement plus.
En direct de l'univers, fin d'année. Ouais. Ça, c'est un divertissement.
Ça, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant.
Ben, c'est écœurant, ça,
parce
c'est
que sinon, t'as de l'offre d'actualité, puis peut-être que les gens veulent en sortir.
Oh,
je sais pas si la Ville de Québec a réfléchi en ce sens-là. Moi, je spécule, je fais du brainstorm.
Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire.
Mais on a peut-être besoin d'avoir une autre offre.
Oui, bon point.
En tout cas, moi, je suis pas fâché que ça se passe plus à la Grande Allée. C'est un méchant bon party. Par exemple, c'est là que j'avais été l'an passé. Mais
le 31 décembre?
Ça a alimenté ma phobie de manquer le décompte. J'ai vraiment une grosse phobie de manquer le décompte. Puis, je l'avais sûrement déjà raconté, mais j'ai perdu tous mes chums, moi, au jour de l'an, le 31 au soir. On est arrivé sur le site, là, machin, il y avait une grosse foule. Eux autres, je sais pas comment ils ont fait, là, mais le temps que j'attache mes bottines, je me suis relevé, puis les gars, ils étaient rendus en avant de la scène, collés, la clôture sur la bedaine, le show, la patente, puis il y avait 5 à 10 000 personnes, voire presque 15 000 personnes devant le manège militaire, là. Puis là, moi, j'essayais de me faufiler. J'ai pas été capable de passer.
Toi, t'as faufilé.
Ben, c'est ça. Moi, c'est plus steak de faufiler, là. Ça fait que j'ai essayé, ça a pas marché. Je me suis retrouvé tout seul devant le Saint-Hubert, les deux pieds dans le slotch.
Bonne année!
À faire comme, ah, oh, mais là, il est 11h52, je vais être tout seul, bonne année. Là, je me suis mis à déprimer, là. Y'a-tu rien de plus triste que ça? Et puis là, j'ai levé les yeux au ciel, hein? Comme une illumination divine. Oui. Puis il s'est mis à tomber des gros flocons.
Oh,
gros,
oui,
des
oui.
beaux gros flocons.
Le poète à matin.
Là, j'ai failli partir à broyer. Je c'est pas vrai que je vais être tout seul par une belle soirée comme celle-là, croiser personne. Puis bon, ça fait que j'ai parti à la course, puis je cours pas souvent. J'ai embarqué d'un autobus.
Ah!
L'autobus est parti. Je me suis fait des chums dans l'autobus. On a pris un coup. Je suis descendu jusqu'en Basseville. Je sors de l'autobus 11h58. Cours d'un banc de neige vers une adresse que je connais pas, chez un gars que je connais pas, mais où il y avait ma sœur puis une de mes chums. Là, j'ai fait, ah, il m'avait parlé de le party, je vais y rejoindre. 11h59:30, je suis dans les marches, le gars, il reste au deuxième étage, je suis brûlé parce que j'ai couru au moins 2 minutes, là.
Oui.
Je suis brûlé.
En ligne.
Puis quand je suis arrivé en haut, cogne ça à la porte, puis ouvre la porte, et, hey, Paul, t'es là, 10, 9, 8. Je suis arrivé
c'est
à
incroyable.
10 secondes du jour de l'an.
Pourquoi c'est quand le train passe, puis qui te fascine, t'as pas juste y envoyer la main. Saute dans le train.
C'est fou comment c'est important, hein?
Ah non, mais
c'est dans nos valeurs.
Ouais, ouais. Non, non, mais moi, manquer le jour de l'an, c'est une phobie. Fait que là, ben tu vois, je le manquerai pas. Qu'on te pose.